Mon premier invité, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il est un pionnier des objets connectés, un visionnaire du numérique, particulièrement dans la tech reliée avec la voix. Et il vient de publier aux éditions Nautilus Media un livre intitulé « Tentative d'épuisement de l'avenir du futur ». Un livre qui fait le point entre le début de la tech moderne et aujourd'hui, en regardant vers demain. Beau défi. On le rejoint chez lui à Paris. Bonjour Raphaël Adja.
Bonjour Bruno.
Heureux de vous retrouver. Je regardais ça la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en 2021, en juillet. C'était l'été, les oiseaux chantaient.
Une interview mémorable d'ailleurs.
Ben merci.
Une interview préférée de ma vie.
Mais là, si je vous relance comme ça, c'est parce que je pense que c'est à la fin octobre ou début novembre en France, vous avez sorti, et ça arrive chez nous là maintenant, un livre qui s'intitule « Tentative d'épuisement de l'avenir du futur ». Pourquoi écrire ça aujourd'hui?
En fait, j'ai commencé à écrire ce livre en 2017. L'été 2017, je venais de quitter la dernière des boîtes que j'avais vendues. Donc, j'avais vendu ma boîte, j'étais resté 2 ans à la diriger. Et là, j'étais parti et j'ai voulu faire ce que j'ai fait à tous les autres moments où j'étais dans cette situation-là, c'est-à-dire ayant vendu, quitté une boîte, donc une aventure, donc un projet, donc une techno particulière, etc. Et la question est, OK, what's next? Et j'ai toujours fait un peu instinctivement cet exercice qui est que l'évolution de la technologie, de ses usages, etc., ne vient pas par hasard et qu'il y a un sens de l'histoire, que c'est une espèce d'évolution qui se nourrit des épisodes précédents et que ce n'est pas soudain un éclair de génie qui, contre toute attente et contre l'avis de tout le monde, invente un truc totalement inattendu. Donc, je ne crois pas en fait à ce qu'on appelle des technologies de rupture, mais plutôt à une espèce de logique, en tout cas une évolution historique. Et je me suis dit, parce que j'avais le temps, je vais pour une fois formaliser ça, cet exercice d'analyse de l'histoire des technologies pour essayer de deviner ce qui vient après. Je vais voir quels sont vraiment les paramètres qui sont en jeu, et peut-être que je peux faire un modèle, un truc comme ça. Donc je pensais que voilà, c'était l'histoire d'un été, que j'allais écrire quelques pages, voire faire un PowerPoint. Et à la fin, ça m'a pris 6 ans.
ça vient de battre un record, ça, la plus longue durée pour écrire un PowerPoint.
Et donc, ça ne ressemble plus du tout à un PowerPoint, ça ressemble à un vrai bouquin. Donc, il faut le dire quand même à ceux qui nous écoutent, ça fait 450 pages. Donc, attention, warning, c'est très gros. Parce que d'une part, écrire un livre, je me suis rendu compte que c'était un plaisir et on y prend goût. Et plus on écrit, plus on a tendance à vouloir aller au bout des choses, etc.
Mais c'est drôle que vous parliez de plaisir parce qu'on sent que vous avez du plaisir à l'écrire. Les propos sont sérieux, mais le ton que vous prenez et l'approche que vous prenez, quand j'ai lu ça, j'ai dit, il a vraiment pris son pied là, pour écrire ça.
D'autant qu'au départ, j'ai commencé à écrire ça. Enfin, ce qui est resté quand même de l'intention initiale, c'est qu'au départ, ce n'était pas destiné à être quelque chose que je communique à l'extérieur. C'était quelque chose que j'écrivais pour moi, pour essayer de formaliser les choses. Donc, il n'y a pas d'intention derrière. Je n'essaie pas de vendre quelque chose, ni de me vendre moi. J'écris juste un truc pour, à la base, me faire plaisir. Et puis bon, quand même, on sait qu'on a des lecteurs et donc on essaie aussi de leur faire plaisir. Mais je n'ai aucun agenda caché. J'essaie pas de vendre quelque chose, ni un produit, ni moi, etc. Donc, voilà, je me suis lâché pour ainsi dire. Ouais. Et puis aussi, pour un peu revenir dans le contenu du livre, il y a donc 3 héros dans mon livre. Le premier s'appelle Saint Jérôme de Stridon. Saint Jérôme de Stridon, c'est un des pères de l'Église chrétienne. C'est celui qui a traduit la Bible en latin en premier, etc. Il a des portraits de lui dans tous les grands musées, etc. Je veux dire, c'est pas n'importe qui, Saint Jérôme de Stridon. Mais tout ça, on s'en fout. Ce qui m'intéressait surtout dans Saint Jérôme de Stridon, c'est qu'on raconte, mais je ne sais plus où j'ai lu ça, qu'il connaissait par cœur tous les livres de son époque. Et ça m'a toujours fasciné. C'est-à-dire que le type qui connaît tous les livres de son époque, c'est-à-dire tout le savoir de son époque est stocké dans sa tête, est un peu l'homme idéal. Ça veut dire que il peut, d'une part, vivre en mode avion, c'est-à-dire qu'il a le cloud dans sa tête, donc tous ces problèmes d'accessibilité dans les systèmes d'information qu'on a essayé de résoudre depuis toujours, ben Saint-Jérôme, il les avait résolus parce que, d'une part, il avait un accès instantané à tout le savoir du monde qui était dans sa tête, donc zéro lag, zéro débit, même pas de coût d'accès à l'information directe, même pas besoin d'interface graphique ou quelque soit, donc une interface directe, voire même pas la conscience qu'on accède à l'information parce qu'on la connaît. Donc si on prend le modèle idéal de la technologie d'information, c'est Saint-Jérôme. C'est-à-dire ce à quoi on essaie de tendre depuis le début de l'histoire, c'est Saint-Jérôme. Donc, c'était bien de partir de Saint-Jérôme comme homme zéro de l'histoire des technologies de l'information, comme je voulais le faire. Le deuxième héros de mon livre, c'est Steve Jobs, parce que c'est aussi un livre sur l'innovation, sur comment les choses émergent, comment les technologies émergent. Et il y a une approche qui personnellement m'agace pour avoir participé à l'émergence, à l'apparition d'un certain nombre d'évolutions et de technologies, c'est qu'il n'y a pas d'homme providentiel, il n'y a pas de génie qui, d'un seul coup, arrive, fait une keynote dans laquelle il annonce quelque chose qui est totalement révolutionnaire, à laquelle on s'attend pas du tout. Donc, je voulais un peu, d'une part, démystifier ça, mais aussi le formaliser, c'est-à-dire que Steve Jobs, c'est pas rien, mais il faut voir à quelle échelle de l'innovation, il arrive. Donc, j'ai essayé de proposer un modèle de l'innovation, une espèce d'innovation par couche, inspirée un peu du modèle OSI dans les réseaux, c'est-à-dire que de couches qui se nourrissent des couches inférieures. Et puis, le troisième héros de ce livre, c'est moi. Évidemment, d'abord, il n'y avait pas de raison que je ne joue pas dans mon propre livre. Et aussi parce que ce livre a été écrit en mode Saint-Jérôme, ce qui est. Je me suis dit, est-ce que je peux être Saint-Jérôme moi-même et écrire entièrement le livre sans avoir jamais recours à aucune technologie d'information, donc accès à aucune ressource interne, et uniquement à partir de ce que je sais. C'est se poser aussi la question de, à 60 ans, après avoir lu, vu, appris, vécu des tas de choses, qu'est-ce qu'on en garde et qu'est-ce qu'on stocke en soi et utiliser que cette matière-là. Pour l'écrire. Donc, c'est aussi un exercice intéressant à faire d'abord pour soi-même, qui est qu'est-ce que le savoir? À la fin, c'est quoi le savoir qui reste? Donc, on se rend compte parfois qu'on est de manière assez décevante que une des choses qu'on retient le plus, c'est les paroles de chansons. Donc, il y a beaucoup de paroles de chansons et puis un certain nombre d'obsessions et de souvenirs. Et puis, comme je ne vais pas chercher des sources à l'extérieur, eh ben, je fais comme les IA génératives, quand je sais pas, j'hallucine, donc j'invente.
Il y a des bulles ici et là, hein?
Donc il n'y a pas de raison que l'hallucination soit le domaine réservé des IA et que nous autres humains, on n'ait pas le droit non plus de déconner un peu.
Mais ce qui est particulier dans votre cas, c'est que dans le monde du numérique, particulièrement dans le monde de l'audio, vous avez toujours été en amont de la technologie. Ça a commencé avec un Abastag, un truc là, très connu. Vous avez fait d'autres choses avant ça. Puis tout ce que vous avez sorti, ça a toujours été bien avant les vagues. Moi, je regarde depuis un an et demi tout ce qui se passe dans l'IA au niveau de l'audio. Ben, Juice, que vous avez sorti bien avant la vague de l'IA, c'était ça. Des voix de synthèse qui nous informent, qui deviennent presque humaines. Juice, c'était ça. Et moi, j'avais presque l'impression d'un vieux blasé quand je parlais de la nouveauté des voix de synthèse en disant, ben oui, mais moi, j'ai ça dans mon téléphone depuis des années, là. Juice, service français, c'est ce qu'ils font. Quand on revient comme ça sur son passé, sachant qu'on a toujours baigné dans l'évolution, comment on regarde l'évolution entre l'homme et la machine, entre l'homme et la technologie?
Je pense que une des choses que fait la technologie avec l'homme, c'est qu'elle crée des addictions. C'est un truc assez simple finalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une technologie qui apparaît et il y a une accoutumance à cette technologie que n'importe qui d'entre nous connaît, vit, reconnaît.
Ben, le téléphone intelligent, c'est le plus bel exemple.
Oui, ou n'importe quoi, ou même le fax. C'est-à-dire que quand on avait un fax, on se disait, mais comment on a pu vivre sans? C'est-à-dire que quand on avait besoin d'envoyer un document rapidement à quelqu'un d'autre dans la même ville, comment on faisait? On appelait quelqu'un et quelqu'un qui allait avec une moto à l'autre bout de la
Il y
ville
avait le bon vieux
porter ce
pigeon avant.
papier. Et donc, toutes ces circonstances de la vie, ou d'un seul coup, ou quand on, enfin, à condition d'être un peu vieux et d'avoir vécu le monde d'avant, on se dit, mais comment on a pu vivre sans? Mais parce qu'à un moment donné, il se crée une accoutumance. Et cette accoutumance, et aucune technologie n'arrive à la satisfaire entièrement. C'est-à-dire que lorsque, au début, on a eu l'Internet en dial-up, on a pris l'habitude d'accéder à l'information. Depuis chez soi, s'en sortir, etc. Sauf que c'était de l'Internet en dial-up, c'est-à-dire qu'il fallait établir la connexion, c'était long, c'était compliqué. Et donc, à un moment donné, on ne le faisait pas parce qu'on se disait que l'information ne valait pas la peine qu'on fasse l'effort de faire chanter son modem jusqu'à accéder à l'information. Et ensuite est venu l'ADSL, le haut débit, le broadband, etc., qui faisait que l'information, enfin, on avait cette connexion permanente au réseau. Donc, le réseau, l'information, l'accès à l'information devenait une seconde nature. J'avais besoin de quelque chose, paf, j'ouvrais une fenêtre, je faisais une requête sur Google. C'était plus une session, un moment exceptionnel de la vie, mais avoir tout le temps des inputs d'information devenait quelque chose naturel en permanence de la vie. Et donc, ça crée cette addiction que d'avoir besoin de cette information. Sauf qu'à ce moment-là, on disait, mais quand tu passes la porte de chez toi, pas de réseau, parce que l'Internet, il est filaire, il arrive chez toi. Donc, d'un côté, je crée une addiction qui est, tu es très dépendant à cette techno, sauf que ça marche que chez toi. Et donc, cette addiction crée une frustration et la techno suivante vient combler cette frustration qui est, ben non, j'ai besoin de l'Internet maintenant, c'est suffisamment important dans ma vie pour que j'ai besoin de l'extérieur, du truc à l'extérieur. Et c'est là que le smartphone arrive. C'est que le smartphone n'aurait pas pu arriver si avant, il n'y avait pas eu l'ADSL qui nous a créé cette addiction à l'Internet permanent, seamless, fluide, et forfaitisé. Et si on n'avait pas pris l'habitude de trimballer avec nous un téléphone, c'est que le plus difficile, c'était pas de faire un smartphone. Le plus difficile, c'était de faire le vieux téléphone mobile de première génération qui a convaincu les gens d'embarquer avec eux tous les jours un appareil avec soi, ce qui était pas évident. Je veux dire, c'était non seulement il faut prendre cet appareil tout le temps avec soi, comme on fait avec sa montre ou son portefeuille. Mais ensuite, quand on rentre chez soi, il faut le mettre à charger pour pouvoir repartir avec. Donc, créer cette accoutumance, cette habitude de trimballer avec son appareil avec soi, c'était une performance extrêmement importante. Donc, une fois qu'on a ces deux choses-là, faire le smartphone devient extrêmement facile. Les gens ont l'habitude déjà d'avoir un appareil chez soi. Ils savent que c'est utile d'avoir l'Internet. Ben, on prend l'Internet, on le met dans cet appareil qu'on a dessus et on a le smartphone. Donc, la magie de Steve Jobs qui apparaît et qui dit j'invente le smartphone, c'est pas vrai. Il l'a construit sur la base de deux addictions qui s'étaient déjà créées. Donc, si on suit le parcours comme ça de quelles sont les addictions qui sont nées et quelles sont les frustrations qui naissent en marge de cette addiction, on arrive à déceler les courants qui viennent juste derrière.
Je vous écoute, puis ça me fait penser à des propos dans votre livre. C'est la progression rapide de la technologie dans nos vies, particulièrement dans les derniers 30 ans, disons. Mais il y a une implication éthique là-dedans. Et il y a une relation entre cette évolution qui est là et l'humain qui, de l'autre côté, essaie de se développer, essaie de s'adapter.
Oui, mais dans ces conditions-là, l'addiction est toujours la plus forte. C'est-à-dire que c'est là que souvent ça rend caduque un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui est bien. C'est toutes ces questions qu'on se pose sur le fait de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien la technologie ou les nouvelles technologies qui apparaissent ou comment on vivra demain. En fait, demain, on vivra ni mieux ni moins bien qu'aujourd'hui. Ce sera le nouveau normal et on considérera que l'ancien normal, il était juste insupportable. Est-ce qu'on sera plus heureux? Est-ce qu'on, etc. C'est certainement pas vrai. Donc tous les discours utopistes qu'on nous raconte aujourd'hui sur toutes les technos qui émergent sont fausses. Et tous les discours dystopiques sont faux aussi, parce que de toute façon, ça sera le nouveau normal, donc on se rendra même pas compte que c'est pire ou c'est moins bien. Et l'autre difficulté, c'est d'essayer de se projeter dans ce futur, parce que en fait, c'est pas nous qui allons vivre ce futur. On se dit, mais jamais j'accepterai ce futur-là. Mais en fait, c'est pas nous qui allons vivre ce futur. C'est futur nous. Et futur nous, c'est pas le nous du futur. C'est pas le nous de maintenant. Entre maintenant et le futur, on va passer par des tas d'étapes intermédiaires dans lesquelles on va trouver on va faire des tas de petites concessions, des petites accoutumances, des petites habitudes, etc. Jusqu'au jour où on aura ce nouveau normal, mais c'est l'exemple de la grenouille qu'on met dans de l'eau bouillante et qu'on fait bouillir et qu'on fait bouillir et qui ne sort pas. Alors que la vision qu'on a de la technologie, quand on la raconte comme ça brutalement, c'est celle de la grenouille qu'on met dans de l'eau directement bouillante et qui dit mais non, moi, jamais je vivrai là-dedans et qui sort de l'eau. C'est pas vrai. Toutes nos technologies, elles infusent lentement. Il y a qu'à voir. L'histoire de la première téléphonie mobile est passionnante de ce point de vue. Au début de la téléphonie mobile, tous les gens que je connaissais disaient « Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un téléphone mobile ?» Et ils avaient raison. Ils se disaient « Mais on a un téléphone à la maison, on a un téléphone au bureau. Quel est cet appel téléphonique qui est tellement urgent ?» Si on n'est pas médecin urgentiste ou réparateur d'ascenseur, pour qu'ils puissent pas attendre la demi-heure ou l'heure pour que je sois à côté d'un téléphone où on peut me parler. Je veux dire, pourquoi les téléphoner est une chose aussi urgente? Et ils avaient raison. Alors qu'aujourd'hui, on considère que c'est invivable. Et c'est les mêmes qui trouvent ça invivable. Donc, en ça, raconter l'histoire du passé est extrêmement intéressant pour voir les transformations qui ont déjà eu lieu. Donc, on a l'impression que ce qui est à venir était terrible, mais dans le passé, on a eu ces moments qui étaient terribles. Avoir un téléphone mobile dans sa poche était un moment terrible. Avoir l'Internet était un moment terrible. Donc, ce qui s'en vient, bon, on a toujours propension à penser qu'on vit un moment historique et que jamais dans l'histoire on a eu des moments comme ça. Et en plus, tout le monde, de Sam Altman à Elon Musk, nous dit qu'on vit un moment charnière de l'histoire de l'humanité, des moments charnières de l'histoire de l'humanité où on en vit tous les jours. Donc, il faut banaliser la technologie, mais pas la sous-estimer non plus.
Mais j'entends dans vos propos que ça carbure à la formidable capacité de l'être humain de s'adapter.
Oui, mais sans aucun mérite, je pense.
Mais c'est l'instinct de survie, c'est l'instinct...
Voilà, d'anesthésier les problèmes et de vivre avec.
Et on continue avec.
D'ailleurs, la capacité de gens comme Steve Jobs ou Sam Altman, c'est ça, leur capacité d'anesthésie, c'est-à-dire que d'arriver à introduire une technologie que généralement ils n'ont pas inventée, mais en enrobant de tout le nécessaire qui anesthésie toute résistance et qui rend ce truc tellement évident et désirable et facile, qui l'anesthésie toutes les résistances possibles à ces nouvelles technologies.
Cette réflexion-là d'être capable de s'adapter, ça vous vient du moment où la planète a arrêté pendant 2 ans de vivre?
Oui, mais parce qu'une longue partie du livre a été écrite pendant la période du Covid, parce que d'abord on avait du temps. Et que ça a duré quand même un peu longtemps. Donc oui, donc sur les 6 années que j'ai passé à écrire ce livre, il y en a 3 qui ont été écrites pendant des périodes de Covid. Donc évidemment, ça s'entend dedans.
Mais le fait de voir comment on utilisait la technologie avant, pendant la Covid, et après comment on a adapté, ça permet de montrer comment on arrive à s'adapter.
Ça permet de voir comment on peut s'adapter et ça permet aussi de voir comment il est difficile de prévoir, parce qu'il faut aussi se souvenir de toutes ces histoires qu'on racontait pendant le Covid et qu'on pensait que cette transformation elle est tellement profonde et durable qu'elle devenait irréversible. J'avais même lu des papiers d'architectes qui disaient que désormais toutes les portes dans toutes les maisons devraient s'ouvrir toutes seules parce que plus personne n'aurait le courage de toucher une poignée de portes et qu'il fallait refaire toutes les portes de toutes les maisons pour faire des portes automatiques qui s'ouvrent toutes seules. Donc c'est cette vision du monde d'après né du Covid, en fait, finalement, à part le fait de faire des calls Zoom plus souvent qu'avant, finalement, il en reste assez peu de choses. Le télétravail.
Exactement, le télétravail, au moins, est resté là pour certains qui veulent le pratiquer. Je veux vous amener sur un autre sujet que vous abordez, le métavers. Comment vous imaginez l'impact du métavers sur nos vies au quotidien, dans les années à venir?
pense qu'il va être anecdotique et nul. L'histoire du métavers est exactement le va dans le sens de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on imagine que parce que quelqu'un, en l'occurrence Mark Zuckerberg, un jour s'est dit « je veux faire le métavers », il a annoncé, il a dit qu'il mettait 10 milliards de dollars, ce qui est dérisoire, et qu'il allait le faire, et que nous, parce que on est passif et un peu bête, on allait bon, prendre le métavers parce que ce serait la dernière technologie à la mode. On suit la technologie qui vient à condition qu'elle soit dans la logique des technologies précédentes. C'est-à-dire que ma vision de la technologie, c'est que si on les adopte, c'est pas parce qu'on est bête et parce qu'on est capable de prendre tout ce qu'on va nous vendre. On les prend parce qu'on a été nourri et accoutumé aux technologies précédentes. Donc, si une technologie n'est pas dans la lignée, dans le prolongement de ce qui précède, elle a aucune chance d'arriver. Or, le métavers est complètement une sortie de route par rapport à ce qui précède. Notamment parce que le truc à remplacer aujourd'hui, c'est le smartphone. Et le smartphone, il y a un truc qu'on oublie du smartphone, c'est que le smartphone est un outil interstitiel. Il y a très peu de gens qui l'utilisent ce truc-là, mais interstitiel, ça veut dire que c'est un truc qui est avec vous tout le temps. C'est que vous l'utilisez pendant 20 secondes, 30 secondes, 4 minutes sur un quai de métro en attendant le bus, quand vous êtes chez le dentiste, quand vous êtes avec quelqu'un, il va faire pipi et vous sortez votre téléphone, etc. Donc, il n'y a pas un moment de la journée où vous dites, ah, maintenant j'ai 2 heures, je vais jouer avec mon téléphone. Vous pouvez faire ça aussi. Mais la force et la dépendance que vous avez à votre smartphone, elle vient du fait que elle est là dans tous les moindres recoins, dans tous les petits trous de la vie que vous avez. Ce que dit le métaverse, c'est bon, on va oublier ce moment interstitiel. À un moment de la journée, vous allez prendre 1 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures, enfin aussi longtemps que vous aurez de la batterie, et vous allez vous installer, vous allez mettre ce truc sur le crâne, et vous allez vous plongez dans un univers qui est fabuleux, pas fabuleux, peu importe. Mais rien que le fait que vous fassiez du time boxing, c'est un moment privilégié de la journée. Ça ramène le métaverse à des tas de trucs anciens qui sont regarder la télé, ou je sais pas, ou aller à la gym, ou aller dans au mall, ou aller dans un parc d'attractions. Donc c'est peut-être vachement fun, ou jouer à des jeux vidéo, mais ça peut en faire quelque chose de marrant, voire un business, je veux dire, le jeu vidéo sont un business, mais ça peut pas être le next big thing, le truc qui remplace le smartphone, parce que le smartphone, il est tissé avec votre vie, il est tissé avec votre vie parce qu'il est là de tous les instants, de tous les moments. Là, le métaverse, c'est une régression à l'âge du Minitel ou de l'ordinateur de bureau, c'est-à-dire qu'il était installé quelque part chez vous avec des fils, et quand vous aviez quelque chose à faire, vous arriviez, enfin c'est le dial-up qui revient. Donc rien que pour ça, le métaverse, enfin au sens réalité virtuelle du métaverse, j'y crois pas. Et quand on voit par exemple le Vision Pro d'Apple, n'est pas différent de ça, c'est-à-dire c'est aussi un usage timeboxé, il recommande même pas qu'on puisse se déplacer avec, on est assis dans un fauteuil, on se déplace même pas chez soi parce qu'on a cette batterie qui vous laisse, et vous êtes là et vous voyez des choses probablement fabuleuses. Je ne décris pas le contenu même ou la fascination, voire l'utilité même de ce qu'on voit dedans, mais ce côté timeboxé peut faire que ça peut être au mieux un truc super, la télé du futur si on veut, le Minitel du futur si on veut, mais ça remplace pas le truc à abattre pour remplacer le smartphone. C'est quelque chose qui accompagne toute la journée, qui est aussi interstitiel que le truc. Donc ça peut être que de la réalité augmentée, c'est-à-dire des lunettes ou n'importe quoi que j'ai sur moi H24. Et qui vient me rajouter une surcouche d'informations, de divertissement, de n'importe quoi, quelle que soit la chose que je suis en train de faire, quel que soit l'endroit où je suis à n'importe quel moment de la journée. C'est ça la critique du métaverse.
Et c'est intéressant parce que, dans le fond, ça ramène un exemple que vous donniez avec Steve Jobs et son téléphone. C'est que le téléphone existait déjà. Lui, il ne faisait qu'agrémenter l'expérience et la compléter.
Il faisait un meilleur téléphone.
Exactement. Si je vous demandais, parce que moi, je vous vois toujours comme un grand précurseur, si je vous demandais, quand vous regardez devant vous, là, à quoi ça ressemble notre futur technologique, parce que vous parliez de futur?
Hein? Je trouve qu'il y a quand même un truc qui est très intéressant. Enfin, d'abord, il y a ce dont je parle dans le livre, qui est le post-web. C'est justement l'évolution vers un monde dans lequel on ne va pas à l'information, mais où l'information vient spontanément vers nous. Et d'autre part, où l'information n'est pas un contenu préfabriqué qu'on écoute ou qu'on consomme de manière différée et collectivement, c'est-à-dire un contenu one size fits all préfabriqué, mais un contenu qui peut se fabriquer instantanément pour chaque utilisateur à chaque moment qu'il l'écoute. Et
Ben,
ça,
ce que vous avez fait avec Juice,
ce
il y a
qu'on a fait
quelques années,
avec Juice, commencé à faire avec Juice, c'est que bon, depuis l'émergence de l'IA générative est devenu un truc totalement mainstream. Mais par exemple, c'est assez intéressant parce que quand on voit comment les gens voient l'usage de l'IA générative aujourd'hui, ils le voient comme un remplacement dans l'ancien modèle. C'est qu'on a aujourd'hui un modèle dans lequel on a un créateur qui crée un contenu qu'un consommateur va utiliser après. On se dit l'IA générative, au lieu d'avoir un type qui écrit un article, ben on va virer le type et on va le remplacer par une IA générative qui va écrire cet article. Mais à la fin, il y aura un article qu'un lecteur va lire de manière différée à un moment donné. Donc, le seul intérêt, il est juste économique de ne pas payer le type qui écrit l'article, ce qui, d'abord, pas gentil, et d'autre part, assez minable en termes d'ambition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait sauter ce goulot d'étranglement, parce que c'est un goulot d'étranglement qui est la personne qui crée le contenu, pourquoi vous voulez garder tous les problèmes qui sont liés à la création de contenu, c'est-à-dire que le contenu devient rare, pas personnalisé et différé dans le temps. À partir du moment où vous avez de l'IA générative, vous pouvez créer du contenu en temps réel, de manière totalement personnalisée, contextuelle pour chaque utilisateur. Et là, ça change complètement à la fois le modèle de business, le rapport au contenu et l'expérience, et voir socialement, ça a un impact énorme parce que ça veut dire que chaque personne a accès à un contenu, à une expérience qui est unique. C'est comme si on créait non pas une réalité virtuelle, mais une réalité individuelle. Chaque personne a accès à une réalité individuelle. C'est imaginer que vous êtes en train de marcher dans la rue et que la musique que vous écoutez, c'est pas la playlist que Spotify a conçue pour vous en concaténant des chansons qui ont été préenregistrées il y a 40 ans par les Beatles, mais une chanson qui se crée spontanément pour vous, qui dans lequel il y a peut-être des ingrédients de Beatles, etc. Donc des éléments qui sont familiers, mais dont le BPM s'adapte au rythme de votre marche, dont le mood général s'adapte à votre mood à vous de la journée où vous êtes, le contexte où vous êtes. Donc, vous avez une chanson qui est éphémère, vous ne l'entendrez jamais deux fois, qui est l'équivalent de la bande son de votre journée. Dans un film, la musique du film, elle n'a pas été écrite par hasard et plaquée sur l'image, elle a été écrite pour correspondre exactement à ce que vous voyez. Vous pouvez avoir la bande son exacte, immédiate de chaque instant de votre vie. Mais ça veut dire que la musique que j'écoute et la musique que vous écoutez, c'est pas la même. Donc, on a moins une communauté de goût. Du coup, on a moins cette espèce de et donc une espèce de fractionnement du des goûts, des choix, des appartenances, des opinions qui devient vertigineuse.
Et on va amplifier le chacun pour soi.
Voilà. Donc aujourd'hui déjà, on voit avec les réseaux sociaux une polarisation des opinions entre les pour ceci, les contre cela, etc. Mais là, on arrive, mais ça reste quand même des grands blocs. Là, on a la possibilité de créer une conspiration par personne. Donc, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien d'avoir une conspiration par personne? Est-ce que ça, en atomisant les conspirations, on les neutralise? Ou au contraire, tout ce qui fait le tissu d'une société avec des gens qui partagent des mêmes contenus, etc., ne tient plus, c'est qu'on a une société qui part complètement en morceaux.
Vous aimez provoquer, hein?
Non, mais c'est intéressant de réfléchir à ces choses-là, peut-être que je me trompe.
Oui, mais c'est ça, mais vous imaginez…
Mais c'est beaucoup plus intéressant que de se dire l'IA générative va remplacer le pigiste qui déjà n'était pas bien payé, on va le remplacer par un robot, mais après tout le reste du business, ça restera le même, tout va très bien. Mais ce n'est pas vrai. Je veux dire, il y a une histoire très intéressante dans la téléphonie mobile, c'est très intéressant la téléphonie mobile. Au début, quand les premiers mobiles sont sortis, les gens se sont dit « j'ai un téléphone à la maison, j'ai un téléphone au bureau, donc ce truc qui arrive, le téléphone mobile, on va lui chercher sa place. Ben, sa place, c'est entre la maison et entre le bureau. C'est-à-dire, quand une techno arrive, on ne veut pas remettre en cause l'ensemble du modèle. On cherche à boucher un trou. Et ce trou, ben, on avait même inventé en France une expression qui était être en situation de mobilité, ce qui était assez ridicule, comme, etc. Donc, quand vous étiez ni à la maison, ni au bureau, c'est-à-dire à la portée d'un téléphone filaire, vous aviez cette espèce d'accessoire de bouche-trou. Que vous utilisez, et les gens éteignaient leur téléphone portable quand ils rentraient chez eux et quand ils étaient au bureau, en disant c'est pas le vrai téléphone.
Mais je me souviens que
ce truc-là pulvérisait tout l'intérêt à la fois d'avoir un téléphone à la maison et d'avoir un téléphone au bureau. La techno ne vient pas boucher un trou, elle remet en cause l'ensemble du modèle. C'est pareil avec l'IA générative, elle vient pas remplacer le pauvre pigiste qui écrit des papiers, elle remet en cause l'ensemble du modèle jusqu'au lecteur ou le consommateur de quelque contenu que ce soit.
Oui, ou l'industrie du disque, dans l'exemple que vous donniez précédemment. Oui. Rafi Al-Hajjam, j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler sur un nouveau bouquin.
Effectivement. Non, mais vous ne savez pas pourquoi. Parce que quand j'ai fini d'écrire celui-là, Tentative d'épuisement de l'avenir du futur, il y a ma première petite fille qui est née, et donc il est dédié à Ariel, ma petite fille, mais depuis j'ai un petit-fils. Alors je me suis dit, il faut que j'écrive un livre pour mon petit-fils. Donc voilà, ça s'appelle, ce sera le livre de Dimitri, ça s'appelle R pour réalité. Justement, le sujet, c'est celui-là, c'est celui dont je viens de parler d'ailleurs, qui est que devient la réalité à partir du moment où on a la possibilité de fabriquer non seulement une réalité par personne, mais une réalité éphémère par personne, c'est une réalité par personne, par seconde. Et c'est assez rigolo.
Ben, si je me fie sur le dernier que vous avez écrit, oui, effectivement. Rafi Al-Hajjam, moi, je veux vous remercier pour votre générosité, pour nous amener à travers 400 pages avec vous, dans vos réflexions, mais aussi de temps en temps dans vos délires. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler prochainement. Je rappelle, Tentative d'épuisement de l'avenir du futur, c'est aux éditions Nautilus Media. Et on parlait avec Rafi Al-Hajjam, qu'on rejoignait chez lui en France. Merci beaucoup, Rafi.
Merci, Bruno.